Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Le temps des illusions, c'est le titre qu'Evelyne Levert a choisi dans son dernier livre pour évoquer la belle époque de la Régence et des premières années du règne de Louis XV, une période que connaît bien, même très bien, Franck Ferrand. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Autant dire que je suis un peu comme un poisson dans l'eau lorsque je lis ces chroniques de la cour et de la ville. Nous sommes dans les années 1720-1730, des années de paix, de prospérité de plus en plus, d'une certaine légèreté, le bonheur quoi.
Ce qui n'exclut pas quand même quelques crises.
Oui, juste de quoi pimenter l'existence. En compagnie d'Evelyne Levert, nous allons revivre les grands événements de cette époque insouciante, à commencer par la plus grande crise bancaire après celle que nous sommes en train de vivre en ce moment. Vous avez peut-être le souvenir, Julia, de Jean Marais dans Le Bossu, vous savez.
Touchez
ma bosse, monseigneur.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Son surnom de bien-aimé, Louis XV ne l'a reçu qu'en 1744, au sortir d'une maladie où le royaume entier avait bien cru qu'on allait le perdre. Mais bien aimé du peuple, ce nouveau roi l'était en vérité depuis la mort de son arrière-grand-père Louis XIV en 1715. Bien aimé des Français, ce jeune souverain à la beauté rayonnante, orphelin depuis le berceau, l'avait toujours été. Les années dont nous allons parler aujourd'hui sont celles où la France, hissée par Louis XIV à la tête des nations d'Europe, mais maintenue en paix par le régent Philippe d'Orléans, l'oncle du jeune roi, une époque où la France peut enfin souffler et profiter de cet art de vivre incomparable que les générations précédentes ont su lui prodiguer. Heureux comme Dieu en France, dit l'expression, il faudrait ajouter au beau temps de la Régence et des ministères Bourbon puis Fleury. Attention tout de même à ne pas trop enjoliver le tableau. Les premières années du règne de l'enfant roi Louis XV, il n'atteindra la majorité des 13 ans, c'est que pour les rois la majorité était à 13 ans, il n'atteindra cette majorité qu'en février 1723. Ces premières années donc sont marquées par une crise financière essentiellement, qui n'est pas sans en rappeler d'autres, n'est-ce pas ? Dès 1716, le duc de Noailles a dû dévaluer et il a dû effectuer des coupes claires dans les dépenses de l'État. Certains poussent le régent à carrément déclarer la banqueroute de l'État. C'est le cas notamment du mémorialiste Saint-Simon, vous savez, qui dans cette époque va jouer un rôle de conseiller, un rôle important. On voudrait tout simplement déclarer la banqueroute de l'État parce qu'on considère qu'il n'est pas possible de s'en sortir dans l'État où se trouvent les finances royales. Ça supposerait évidemment la réunion des États généraux. Philippe d'Orléans, le régent, n'ira pas jusque-là, mais il crée tout de même une commission d'enquête et une chambre de justice pour mettre de l'ordre dans la gestion des comptes publics. Autant vous dire que chez les financiers de l'époque, c'est un peu panique à bord. Cependant, ce ne sont pas ces remises en ordre financières qui donnent à manger aux plus pauvres. C'est une époque, je vous parle moi, évidemment de douceur de vivre, de légèreté, etc. Mais il y a encore des famines à l'époque, ce sont les dernières du reste. À l'hiver 1716, raconte Evelyne Levert, Paris compte nombre de mendiants et l'aumône est interdite sous peine d'amende. Le thermomètre est descendu jusqu'à moins 16, tandis qu'on dansait à l'opéra. Et le froid a été responsable de bien des drames. Les mois passent, le Conseil des finances se révèle impuissant à résoudre cette crise gigantesque. Quant à la Chambre de justice, bien à force de vouloir redresser les torts et de juger tout le monde, de grands et petits, elle va finir par devenir extrêmement impopulaire. C'est dans ce contexte que le régent va être mis en contact avec un Écossais aux idées audacieuses, John Law. Alors ça s'écrit Law comme loi en anglais, L-A-W, mais la tradition veut qu'on prononce Lass. Je trouve cette tradition, en ce qui me concerne, un peu pénible et si vous permettez, on l'appellera comme il s'appelait, c'est-à-dire John Law. Ce monsieur fait partie de ce genre de conseillers très sûrs d'eux, vous savez qu'on rencontre parfois dans les temps de crise grave. Ils sont d'autant plus dangereux, ces gens-là, que pour eux, la solution des problèmes a l'air facile. Et ils vous regardent en disant, mais enfin, c'est très simple, regardez, il n'y a qu'à, eh bien, en l'occurrence, ce John Law insiste beaucoup sur l'importance du crédit pour stimuler le commerce. commerce, ce qui à ses yeux passe par la création d'une banque, banque autorisée à émettre du papier monnaie. Du papier monnaie garanti par l'État, autant dire une grande nouveauté en France. Alors, avant d'aller plus loin, qui est-il, cet Écossais? Qui est-il, ce John Law ou Lass? Je laisse la parole à Evelyne Levert. John Law est un séducteur, écrit-elle, un homme de plaisir qui joue dans la vie comme il joue au pharaon. Il court au devant des... Le pharaon, c'était un jeu de cartes très répandu à l'époque. Il court au devant des événements, les suscite, multiplie les initiatives et croit à la chance. Son passé a de quoi inquiéter les plus sages conseillers du prince. Après avoir dilapidé l'héritage de son père, orfèvre à Édimbourg, il a vécu du jeu. Les mauvaises langues disent qu'il a commis des filouteries. Condamné à mort en 1680, pour avoir tué en duel un jeune officier anglais, gracié mais resté en prison, il s'est évadé et a trouvé refuge en France. Son origine a plaidé en sa faveur auprès du prétendant Stuart. Il faut dire qu'à l'époque, l'exilé anglais Stuart se trouve à Saint-Germain-en-Laye, à la cour de Saint-Germain. Il a enlevé, à cette cour de Saint-Germain, nous dit Evelyne Levert, il a enlevé la sœur de Lord Bunbury et ils sont partis ensemble pour l'Italie. Ils ont voyagé dans toute l'Europe, fréquentant les boutiques d'échangeurs, les banques et les tripots. Vous voyez un peu le genre de personnage, hein, quand même. Le régent aurait tout de même dû se méfier, mais vous savez ce que peut être l'empire de la nécessité. Finalement, le duc d'Orléans a cédé, il s'est laissé convaincre, et le 2 mai 1716, Monsieur Law reçoit les lettres patentes qui lui donnent le droit de fonder sa fameuse banque. Elle va devenir une banque d'État et servir de plus en plus au fil des mois à placer auprès du public les actions de la nouvelle compagnie des Indes. Cette nouvelle compagnie des Indes a pour mission de coloniser tout le Mississippi et d'exploiter les fabuleuses mines d'or et d'argent du Mississippi. Ah, d'un seul coup, on a l'impression que c'est la croissance qui revient.
Un menuet sur Europe 1, extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau.
Alors le prix des fameuses actions ne fait que monter et tout le monde, en tout cas parmi les gens aisés évidemment, tout le monde commence par réaliser de fabuleuses plus-values sur les actions du Mississippi. On en veut, on en redemande et comme dans tous les cas de spéculation, c'est toujours étonnant de voir ça d'un peu loin, on a l'impression que personne n'a vraiment conscience du caractère artificiel de cette fausse richesse qui est créée seulement par le désir des actionnaires, par la demande de plus en plus forte. Sauf que forcément, on connaît tout ça par cœur maintenant. Tout ça n'a qu'un temps. Au début de l'année 1720, les actions du Mississippi commencent à baisser. Le bruit court que les fameuses mines d'or, vous savez, sur lesquelles tout ça est gagé, n'existeraient pas. Alors ça fait peur à tout le monde. Les premiers à se désengager, à se faire rembourser leur or, ce sont les princes du sang et les gens très importants et très informés, bien entendu. On pourrait presque parler de délit d'initié. Le public perd aussi confiance, mais il met un peu plus de temps à réaliser. Et il perd surtout confiance, ça c'est plus grave, au-delà des actions de la compagnie, il perd confiance dans les billets de banque, dans ce nouveau papier-monnaie. Le gouvernement s'affole, le 21 mai, pour essayer de calmer la situation, un édit du roi réduit de moitié la valeur des actions de la compagnie des Indes, et ça, ça aurait été l'erreur qu'il ne fallait pas commettre, et d'ailleurs, ça, on peut dire que le banquier Law l'avait dit, on diminue également de moitié la valeur des billets de banque. Alors là, terrible. En sortant du cabinet du régent, Monsieur Law nous dit Barbier. Vous savez que Barbier, c'est le chroniqueur parisien qui tient une sorte de registre, une sorte de journal de tout ce qui se passe à l'époque. C'est extrêmement pratique pour ça, pour les historiens. Monsieur Law a dit, en sortant du cabinet du régent, écrit Barbier, aux officiers de ne point vendre leurs actions et que tout irait bien. Il en a dit autant dans la banque. Le mercredi, je le vis passer rue de Richelieu dans un carrosse magnifique. Il fut insulté copieusement par un particulier en sortant de la banque. Ça commence à aller mal. La panique se répand. Les commerçants bientôt vont refuser les billets de banque en paiement des marchandises. Ça, c'est inquiétant parce que d'un seul coup, évidemment, tout le monde veut récupérer son or. Tout le monde se précipite au guichet. On connaît ce genre de situation. Alors Law essaie de se défendre autant qu'il peut. Il interdit à la banque de rembourser en or plus de 100 francs. Et puis dès le 13 juillet, payer pas plus de 10 francs par personne. Le 17, c'est la catastrophe, c'est l'effondrement, l'émeute éclate. Hier, écrit toujours notre barbier, hier donc le 18 juillet, la rue Vivienne fut remplie de 15 000 âmes dès 3 heures du matin. La foule fut si considérable qu'il y eut 16 personnes étouffées avant 5 heures. On promena 5 cadavres le long de la rue Vivienne et à 6 heures, on en porta 3 à la porte du palais royal. Le peuple suivait en fureur et voulait entrer dans le palais. Qu'on ferma de tous côtés, dit-il. On leur dit que le régent était à Bagnolet, qui était une maison de campagne de Madame la régente. Le peuple répondit que cela n'était pas vrai, qu'il n'y avait qu'à mettre le feu aux quatre coins et qu'on le trouverait bien, ce régent. Bientôt, ce fut un tapage affreux dans tout le quartier, raconte Barbier. Une bande porta un corps mort au Louvre. Le maréchal de Villeroy leur fit donner 100 écus. Une autre bande se jeta du côté de la maison de Monsieur Lot, dont ils cassèrent toutes les vitres. On y fit entrer des Suisses pour la garder. Pendant ce temps, Monseigneur le Régent avait peur. On n'osa pas faire paraître de troupes. Rocheplate, un des officiers de ses gardes, avait fait entrer dans la banque 50 soldats aux gardes en habits bourgeois. Un officier y vint avec 20 mousquetaires en habits ordinaires. C'est lui-même qui me l'a dit. Quand les mesures furent prises, dedans à 9 heures, on ouvrit les portes et en un moment, les cours furent pleines de 4 à 500 personnes. Au nouveau du gouvernement, ça ne va pas beaucoup mieux. Un bras de fer oppose à ce moment-là le Parlement de Paris au Régent. Le régent qui a été considéré par les parlementaires comme imprudent. Et le Parlement ayant refusé d'enregistrer un édit confirmant les privilèges de la Compagnie des Indes, le régent a fait occuper le palais et transférer les parlementaires à Pontoise. Mais le 10 octobre, il va devoir avouer la faillite. Les actions de la Compagnie sont tombées de 2000 à 20 livres seulement. Au mois de décembre, Monsieur Lot s'enfuit. Et oui, c'est généralement comme ça que ça se passe. On connaît ce genre d'histoire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Evelyne Levert, qui est historienne, chercheure au CNRS, auteur notamment de l'ouvrage Le temps des illusions, chronique de la cour et de la ville, 1715-1756 chez Fayard.
Evelyne Levert, que connaissent bien tous les amoureux du XVIIIe siècle et les auditeurs d'Europe 1, car ça fait un certain nombre de fois que nous recevons Evelyne, c'est toujours un plaisir. Alors, pour en finir avec cette affaire de la banqueroute, de la banque de l'eau, il faut savoir que dans cette affaire, des milliers de petits porteurs ont été pour beaucoup ruinés, pour d'autres très fragilisés par cette affaire. C'est le poète Marivaux, par exemple, qui raconte qu'il a tout perdu, toutes ses économies. « Ah, je n'avais, écrit Marivaux, qu'à rester comme j'étais, à m'en tenir à ce que j'avais, et ce que j'avais m'appartiendrait encore. Il voulait, disait-il, doubler, tripler, quadrupler mon patrimoine à cause de la commodité du temps. » Et il me menait comme il voulait. Et c'est Madame Palatine, à laquelle nous réservions une émission il y a quelque temps, qui elle concluait d'une façon un peu, enfin à sa manière, toujours un peu crue. « Je trouve très dur de ne plus avoir d'or, dit-elle. Depuis 48 ans, j'avais toujours quelques pièces dans ma poche. Personne en France n'a maintenant plus ni francs ni liards. On n'a que des torches-culs à foison. » Voilà ce qu'écrivait Madame Palatine à sa tante Sophie de Hanovre. Elle était assez furieuse de ce qui se passait. Alors, cette banqueroute a été, il faut bien le dire, elle a été le grand événement malheureux de la régence de Philippe d'Orléans, Evelyne Levert.
Oui, certainement, ça a été un événement malheureux, mais il y a eu aussi des aspects, disons, positifs. Alors évidemment, il y a des gens qui se sont terriblement enrichis, en particulier les princes, vous l'avez rappelé
ça,
tout à l'heure.
Oui, ont retiré leur billet à temps.
Mais il y a un certain nombre de bourgeois aussi qui se sont enrichis et un certain nombre de personnalités autour de la cour, comme par exemple Madame de Tencin et le cardinal, son frère, qui ont fait véritablement fortune. Mais disons que le système de l'eau a permis aussi de prendre en charge une partie des dettes de l'État. Et ça, c'était très important parce que Louis XIV a laissé les finances dans un état épouvantable et la dette de l'État était énorme. Vous savez, elle restera toujours très importante pendant toute la période de l'Ancien Régime et les finances de l'Ancien Régime sont extrêmement compliquée, extrêmement complexe, au moins aussi complexe que celle de la République.
Oui, avec en plus un système des régimes extrêmement variés, complexes, tout ça.
On ne va pas
bien sûr entrer là-dedans. On va rester, si vous le voulez bien, dans cette très jolie évocation qui est l'inspiration même de votre ouvrage, Le Temps des Illusions, chez Fayard. J'adore ce genre de livre. Je suis vraiment heureux que vous ayez écrit ça, Evelyne Levert. Ça me rappelle, c'est quand j'étais étudiant, j'allais chez les bouquinistes et je trouvais des livres souvent un peu jaunis, un peu défraîchis de la fin du 19e siècle ou de l'entre-deux-guerres, qui racontaient simplement avec beaucoup de fraîcheur, qui racontaient ces belles périodes qui sont aussi des lieux d'évasion pour nous, disons-le, et de rêve. On retrouve ça dans votre livre avec aussi, bien entendu, tout, vous ne cachez rien, des misères du temps, des difficultés, des crises, mais vous le racontez avec de l'humour, de la légèreté, ce qui convient exactement à l'esprit du temps. On est quand même dans une période assez légère, même après la Régence.
On est dans une période légère pour les élites.
Oui, mais pour les élites, il faut toujours dire.
Je me suis imaginé que j'étais un journaliste de l'époque et que j'explique ce qui se passe. Je raconte et je tente de donner un certain nombre d'explications. Parce qu'aujourd'hui, l'histoire a très souvent oublié les événements et les personnages. Et je crois qu'il fallait un petit peu humaniser cette période qui est une période extrêmement importante de l'histoire de France et agréable en même temps.
C'est une période agréable.
Et beaucoup plus proche de nous qu'on ne peut l'imaginer a priori.
On parle toujours, bien entendu, de Louis XIV. Alors ça, lui, il est la superstar de l'histoire. Donc on ignore quasiment rien.
Il y en a d'autres.
L'une des, on va dire. Mais enfin, on ignore quasiment rien de son règne. On parle beaucoup, bien sûr, de Marie-Antoinette. Et vous n'êtes pas étrangère à ce phénomène. On parle un peu de temps en temps de Louis XV. Mais même quand on parle de Louis XV, c'est, j'ai envie de dire, de la deuxième partie du règne, de l'époque de Madame de Pompadour et de celle de Madame du Barry. Et l'on oublie toute cette première moitié qui a été finalement assez heureuse, disons-le. Alors, Louis XV est tout petit, c'est un enfant lorsque meurt son arrière-grand-père. Il a 5 ans, évidemment.
Oui.
Hein. Donc, il ne deviendra majeur que 13 ans plus tard. C'est donc toute cette période de la Régence. Qui sont les hommes qui l'ont formé, en quelque
sorte?
Alors,
Louis XV a été formé par le régent.
Par son oncle, donc.
Son oncle, le régent, et il lui a dit « Appelez-moi mon oncle », et il l'appelle « mon neveu », comme Louis XIV appelait « mon neveu » le régent. Et il y a une réelle affection qui unit le régent avec cet enfant roi.
Parce ce petit garçon très grave et très beau.
C'est un enfant, oui, c'est un enfant. Il a 5 ans quand il monte sur le trône. Et puis il y a à côté du régent Dubois, qui va devenir cardinal, qui
est terrible abbé Dubois.
Un abbé sans foi ni loi, mais qui joue un rôle quand même important et un rôle positif en particulier en ce qui concerne la politique extérieure. Et puis il y a aussi l'abbé de Fleury qui va devenir cardinal de Fleury et qui dirige le petit roi pour sa beauté morale et aussi qui le forme intellectuellement.
Et qui va donc devenir le premier ministre plus tard, un peu plus tard.
Jusqu'à sa mort, et le cardinal de Fleury durera, il sera 20 ans premier ministre, et on dit que le cardinal de Fleury a éloigné Louis XV des véritables réalités du pouvoir.
Il l'a peut-être volontairement tenu à l'écart.
Il l'a volontairement sans doute tenu à l'écart, parce que ce vieillard, il meurt à plus de 90 ans, ce vieillard s'est accroché au pouvoir. Mais on peut dire que les trois hommes, que ce soit le régent, que ce soit Dubois et que ce soit Fleury, les trois hommes ont convaincu Louis XV de la nécessité de maintenir l'absolutisme. Et ça, c'est quand même quelque chose de très important, c'est-à-dire de perpétuer l'héritage de Louis XIV. Et Louis XV restera un monarque absolu, hostile aux idées nouvelles. Et ça, les trois personnages
sont aussi responsables les uns que l'autre.
Les uns que les autres.
Très jeune, à 15 ans, Louis XV va épouser une jeune princesse plus âgée que lui, du reste, Marie Leszczyńska, qui est la fille du roi déchu de Pologne, Stanislas Leszczyński. Ça a été le grand événement du début du règne, 1725.
Ça a été un événement qui a été diversement apprécié. Oui. Le seul heureux dans l'histoire, c'est le jeune roi. Parce que tout d'abord, il avait été promis à une infante d'Espagne qui était arrivée. Louis XV avait à ce moment-là 12 ans. Elle avait 3 ans.
Ah,
c'était
oui.
une très jolie petite fille.
Un bébé.
Et dire à un garçon de 12 ans qu'il va épouser un bébé de 3 ans 10 ans plus tard, c'est quand même assez décevant. Et tout le monde disait, le roi n'aime pas sa petite infante. Et la petite infante était d'ailleurs quelqu'un d'assez intelligent et d'assez merveilleux.
Mais on l'a renvoyé gentiment
chez elle. Parce que après la mort du régent, c'est le duc de Bourbon qui est devenu premier ministre, donc prince du sang.
Condé, oui.
Et celui qu'on appelle monsieur le duc, eh bien monsieur le duc se plaît au pouvoir, car c'est lui qui gouverne. Louis XV n'a que 14 ans, donc il se plaît au pouvoir et il tremble à chaque fois que le roi est malade, parce qu'il se dit que si le roi meurt comme il n'a pas d'héritier, la couronne passera au duc d'Orléans, le cousin du roi. Et de ce fait, le duc de Bourbon n'existera plus en tant que personnage politique. Donc, il se convainc de la nécessité de marier le roi le plus vite possible, de façon qu'il puisse avoir des enfants et lui, le duc de Bourbon, se maintenir au pouvoir. Alors, on renvoie l'infante et on cherche toutes les princesses susceptibles de devenir l'épouse de Louis XV. Alors, on dresse une liste fantastique.
Ah oui.
Il y en a presque une centaine. On en élimine à peu près 80. On allait éliminer en particulier les Russes parce qu'elles étaient belles, mais elles n'étaient pas d'assez bonne naissance. Puis alors, on les passe toutes. On met des annotations dans la marge. Pour Marie Leszczyńska, on commence par mettre qu'elle n'est pas digne d'être reine de France. Et puis finalement, à force d'éliminer les unes ou les autres pour des raisons diverses et variées, eh bien, on retombe sur Marie Leszczyńska. Alors, c'est la fille du roi détrôné de Pologne, mais il a été roi quelques mois, ce Stanislas Leszczyński. Il a été roi et en fait, il n'est pas du tout
de famille. C'est un peu une mésalliance,
disons-le. C'est une mésalliance totale.
Oui.
C'est un grand palatin de Pologne, mais c'est-à-dire c'est un grand noble polonais et les nobles polonais ne sont pas considérés comme de la... C'est pas la noblesse allemande, c'est pas la noblesse espagnole. Bon. Enfin, et en plus, le roi Leszczyński vit de la charité du roi de France dans une maison patricienne, dans une maison modeste quand même, à Wissembourg, en Alsace.
On imagine la tête de cette pauvre petite princesse Marie lorsqu'elle apprend dans cette maison modeste de Wissembourg qu'elle va devenir la reine de France.
Et on s'aperçoit qu'elle n'a qu'une seule paire de chaussures, parce qu'on va faire son trousseau, et elle n'a qu'une seule paire de chaussures digne de ce nom. C'est vraiment Cendrillon qui va épouser le roi de France. Et on ne s'attendait pas à ça. C'est une jeune femme de 22 ans. Elle a eu une éducation morale parfaite. Elle est extrêmement pieuse. Elle est intelligente. Elle a une grande culture. Elle parle plusieurs langues. Elle est plus cultivée que la plupart des princesses. Elle n'est pas laide. Elle est même pas mal. Mais enfin, ce n'est pas non plus une beauté. Mais Louis XV est content. C'est une vraie femme qu'on va lui donner.
Mais voilà. Il est ravi et d'ailleurs, elle lui donnera de très nombreux enfants.
Oh oui.
Essentiellement des filles, malheureusement, pour la
succession.
Mais il y aura un garçon qui assurera la lignée, la dynastie. Nous nous retrouvons dans un instant pour revenir un peu sur cette personnalité du cardinal de Fleury.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et nous nous intéressons cet après-midi sur Europe 1 au règne de Louis XV, toujours en excellente compagnie, celle d'Evelyne Levert.
Et oui, alors disons que depuis que le cardinal de Fleury a pris en main les rênes de l'État, une certaine rigueur règne à nouveau au sommet, tout à fait dans l'esprit de ce qu'on appelait l'ancien règne à l'époque. L'ancien règne, c'était celui de Louis XIV, bien entendu. C'était une expression, on disait ça fait très ancien règne. Certaines habitudes ont cependant été prises pendant la régence et notamment la bonne société a pris l'habitude de se mêler de politique. Et ça, c'est assez nouveau. On parle de plus en plus des affaires du gouvernement, ce qui 20 ans plus tôt aurait été non seulement déplacé, mais probablement interdit. On dit à ce propos que son éminence est assez agacée par les réunions d'un nouveau club à l'anglaise, le club de l'entresol, qui s'appelle ainsi parce qu'au début, il s'est réuni dans un appartement entresolé de la place de Vendôme, chez un académicien, l'abbé Alary. Mais ça, ça, ce sont encore de petits soucis. Ce qui tracasse davantage l'abbé Fleury, ce sont les jansénistes. Alors, vous savez, les jansénistes, ce sont ces religieux, c'est ce courant religieux assez rigoureux. C'est toujours très difficile de définir ça. Ce sont des gens qui croient à la grâce divine. Ils ont constitué peu à peu une sorte de religieux dans la, de religion dans la religion. Et Louis XIV leur a fait littéralement la guerre. Il les a persécutés. Il a liquidé l'abbaye de Port-Royal des Champs. Nous avons eu l'occasion de parler de ça ici même. Et cette persécution contre les jansénistes faisait qu'on pensait, au moment de la Régence, que le jansénisme était quasiment mort. Il n'en est rien. Il va constamment essayer de renaître et il va, par le biais notamment de la bourgeoisie parlementaire, empoisonner l'existence de Louis XV. Car il ne faut pas oublier que derrière un certain nombre des révoltes et des bras de fer parlementaires de tout ce règne de Louis XV, il y a bien des jansénismes et il y a bien la ferveur jansénisme. Alors, cette ferveur, elle se manifeste notamment dans ces foules qui, de plus en plus nombreuses, se réunissent à l'époque, dans les années 1728-29, se réunissent au cimetière Saint-Médard, le cimetière de l'église de Saint-Médard. On est donc dans des quartiers assez excentrés, presque hors la capitale, on peut dire hors les murs, sur la tombe d'un modeste oratorien du nom de François Paris. Ce François Paris était un homme de grande vertu. Il était justement favorable au jansénisme. Ce qui explique qu'on se réunisse autour de sa mémoire. Et évidemment, depuis sa mort, sa tombe est devenue une sorte de lieu de culte. Il est pleuré, il est vénéré par un certain nombre de ces jansénistes. Alors, au mois de juillet 1731, Barbier, je retrouve là mon journal de Barbier, voilà ce que nous dit Barbier. Ce monsieur Paris, donc qui est mort depuis 4 ans, ce monsieur Paris était resté tranquille pendant quelque temps, c'est-à-dire sans faire de miracle. Mais il a repris vigueur depuis 2 mois et il y a toujours une affluence étonnante de monde à son tombeau. Quelque éloigné que soit Saint-Médard, il s'y rend nombre de carrosses, des hommes comme des femmes et des personnes de distinction. Il y a eu plusieurs miracles qui tombent assez volontiers sur des gens paralytiques. Le peuple chante, il est quand même assez ironique, Barbier, dans son approche de la chose. Le peuple chante de lui-même et entonne un tédéum, nous dit-il. Et on voit des gens de la cour qui viennent au cimetière de Saint-Médard sur la tombe de ce Paris. Toujours Barbier. Madame la princesse de Conti, qui est aveugle depuis 4 ou 5 ans et qui fait tous les remèdes imaginables, a été à Saint-Médard à 3 carrosses pour y commencer une neuvaine. Il y a eu entre autres un ecclésiastique envoyé ici par l'évêque de Montpellier qui est grand janséniste. Cet ecclésiastique se nomme l'abbé Bécheran et tout le monde convient que depuis sa jeunesse il boitait fort et avait un pied plus court que l'autre. Il est à présent au moins à sa 3e neuvaine. Il y va tous les jours, quelquefois matin et soir. Alors Barbier nous raconte comment on procède. Hein. On lui ôte son rabat, ses boutons de manche et ses jarretières. On le couche sur le dos le long de la tombe et on dit les 7 psaumes en psalmodiant avec de grandes dévotions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit les miracles se produire, se multiplier, ce qui fait que la foule est de plus en plus importante et que sur le bureau du lieutenant de police, évidemment, les rapports s'accumulent. Le 27 janvier 1732, Fleury n'y tient plus. Une ordonnance royale ferme purement et simplement le cimetière Saint-Médard. Et Barbier voit afficher sur les murs 3 jours plus tard ce pamphlet. Vous savez qu'on est à l'époque où, évidemment, on s'exprime beaucoup par épigramme. De par le roi, dit l'affiche, défense à Dieu de faire miracle en ce lieu. Le Parlement n'est pas content de cet arrêt de fermeture. Il a l'intention d'en délibérer. Et c'est une véritable bataille qui se déclenche. Et là, on va voir le roi faire preuve d'autorité. C'est la première fois de son règne. C'est loin d'être la dernière. Vous savez qu'en 1770, Louis XV fera carrément un coup de force contre les parlements. Mais là, on en est encore très loin. Le jeune roi, tout jeune, se présente donc au Parlement. « Je vous fais savoir ma volonté, dit-il, et je veux qu'elle soit pleinement exécutée. Je ne veux ni remontrance, ni réplique, en quelque façon ou de quelque nature que ce soit. Vous n'avez déjà que trop mérité mon indignation. Soyez plus soumise à l'avenir et retournez vite à vos fonctions. » Le roi est très clair. Alors le premier président se lève pour essayer d'haranguer, de dire un mot. « Taisez-vous !» lui intime le roi. Et on voit l'abbé Pucelle qui se lève pour avancer ce qu'on appelle un placet, c'est-à-dire un morceau de papier sur lequel il a écrit un discours destiné au roi. Le roi tend le papier à Maurepas, son ministre, et lui dit « déchirer », ce que le secrétaire d'État fait sur le champ. Il n'y a guère d'exemple qu'un Parlement ait été aussi maltraité, nous dit Barbier. On est là dans l'illustration même de ce que nous disait à l'instant Evelyne Levert sur l'inspiration extrêmement orthodoxe d'un Louis XV qui a été formé à l'autorité royale. C'est une monarchie de droit divin que cette monarchie dont il a hérité, et il entend bien être le digne successeur de son arrière-grand-père Louis XIV.
Orage sur Europe 1, extrait des Indes galantes de Jean-Philippe Rameau. Restez avec nous, Franck Ferrand et Evelyne Levert reviennent dans un court instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Quand Louis XV était jeune, voilà ce que nous raconte aujourd'hui sur Europe 1 et son invité, l'historienne Evelyne Levert.
Et oui, quand Louis XV était jeune, la France allait bien et même de mieux en mieux. On peut dire que tout le ministère fleuri aura été l'histoire d'une remise en ordre et d'une prospérité gagnée. Evelyne Levert.
Équilibre des finances, une année. Voilà. C'est quand même, faut le noter.
Mais il y a prospérité. Même si les finances sont déréglées, il y a prospérité.
Il y a prospérité. Oui. Quel bon temps que ce siècle de fer. C'est Voltaire qui dit ça pour ces années-là.
Oui.
Et alors, le ministère Fleury est un ministère qui est quand même marqué par un calme intérieur tout à fait relatif, mais enfin qui existe, et puis par une guerre, mais une guerre qui véritablement aura des conséquences positives. Ce sera la guerre de succession de Pologne qui nous vaudra le rattachement de la Lorraine à la France, et cette pauvre petite Cendrillon de Marie Leczinska est finalement une princesse
bien pratique.
Qui donne la plus belle dot que jamais sous l'Ancien Régime aucune princesse ou reine n'est apportée.
Il faut préciser, on donne le duché de Lorraine à son père, mais avec usufruit seulement.
Avec usufruit seulement, et la Lorraine reviendra à la France, et elle reste fille de roi, car on conserve à Stanislas, roi battu, roi déchu, on lui conserve son titre de roi. Donc elle reste fille de roi.
Un Stanislas qui aurait pu remonter sur le trône de Pologne, décidément son gendre fait tout pour cela, car Louis XV, très tôt, va mener une diplomatie secrète.
Mais en fait, Louis XV est quand même très habile, et Fleury aussi. Ils ne veulent pas tellement aider Stanislas. Ce qu'ils veulent, c'est par un jeu, disons, diplomatique, c'est obtenir cette province de Lorraine, puisque nous avons la France à l'Alsace, mais n'a pas la Lorraine. Et ça a été la politique de Fleury qui a porté véritablement ses fruits. Louis XV est très préoccupé par la politique extérieure, beaucoup plus que par la politique intérieur. Et lorsque Fleury meurt en 1743, on se demande si Louis XV va être véritablement capable de gouverner par lui-même. Parce que jusque-là, Fleury a été son mentor et puis son premier ministre sans en avoir
Louis
le titre.
Louis XV aura d'autres grands ministres. Il aura les Argenson, il aura évidemment Choiseul plus tard.
Bien sûr.
Mais à partir de la mort de Fleury, c'est quand même lui qui non seulement règne, mais gouverne.
Lui qui gouverne, mais en fait, il dit « je n'aurai pas de Premier ministre ». Il suit également ce que lui a dit Fleury, c'est-à-dire « n'ayez jamais de Premier ministre, faites comme votre aïeul Louis XIV ». Seulement, Louis XV n'est pas Louis XIV, c'est un homme qui a une culture politique qui est certaine, mais ce n'est pas un homme de décision.
C'est pas un homme de pouvoir.
C'est pas un homme de pouvoir, c'est un homme aussi qui est, faut pas l'oublier, un grand dépressif, avec lequel il est toujours difficile d'avoir une conversation politique suivie. Il reste très souvent, par rapport à ses ministres, dans un mutisme qui les gêne énormément. Alors certains prennent cela pour de la sottise, d'autres pour de la timidité. En fait, il est vraisemblable que Louis XV était dans un mal-être extrêmement profond et évidemment
il y avait quelque chose de morbide dans sa nature, peut-être lié à la mort si précoce de ses parents, etc.
Oui. Mais aujourd'hui, il serait sur le divan d'un psychanalyste,
sans doute,
certainement. Mais à l'époque, il n'y a pas ça. Il n'y a que les confesseurs.
Il y avait Madame de Pompadour qui a un peu joué ce rôle pendant 20 ans. Mais
plus tard, Madame de Pompadour. Et à partir de la mort de Fleury, il se confie beaucoup au maréchal de Noailles, qui est lui aussi un homme encore de l'ancienne cour, de l'ancien temps. Et le maréchal de Noailles le convainc de rester un monarque absolu. Donc vous voyez, il y a cette filiation toujours vers l'absolutisme, alors que l'opinion est en train d'évoluer et l'opinion souhaiterait qu'il y ait une libéralisation du régime.
Alors Louis XV est resté dans les premières années fidèle à sa femme, qui pourtant avait 7 ans de plus que lui. Il lui a donc fait tous ses enfants.
C'est pas un vieillard, ils sont très jeunes.
Loin de là, ils sont tout jeunes l'un et l'autre. Elle avait au moment du mariage 22-23 ans et lui 15, 16.
Oui, à 20 ans, il a déjà 5 enfants.
C'est ça, c'est extraordinaire. Mais bientôt, évidemment, toutes ces belles dames qui fleurissent dans sa cour vont lui faire tourner la tête. On va voir quelles ont été toutes ces maîtresses de Louis XV. Pendant la période du ministère Fleury, j'allais dire, il n'avait guère mieux à faire, Louis XV.
Quelques notes du prologue, extrait des Folies de Cardenio de Michel Richard de Lalande.
Et voilà, les tambours d'une guerre en dentelle. Nous allons parler d'une guerre de dentelle maintenant.
Oui.
En fait, les premières maîtresses de Louis XV, ses premières favorites, sont toutes les sœurs.
Ce sont des sœurs.
C'est quand même étonnant.
Mais alors la première, c'est quand même Fleury qui l'a choisie
les quatre,
pour le roi.
Les quatre filles d'un même
gentilhomme. Ce sont les fameuses sœurs Nel. Parce que lorsque Fleury a compris que Louis XV allait avoir une maîtresse, il s'est dit qu'il ne fallait surtout pas que ce soit des coteries de la cour qui la lui désignent. Il a préféré la choisir lui-même. Il a choisi la comtesse de Mailly, née Nel. Et cette comtesse de Mailly était une femme éperdument amoureuse de Louis XV, discrète. Et Fleury était bien persuadé, il avait raison, qu'elle ne se mêlerait pas de politique.
Le roi Elle était idéale.
Elle était tout à fait idéale. Le roi est tombé amoureux d'elle, mais pas trop quand même. Mais enfin, les choses se sont extrêmement bien passées. Et il a été relativement discret par rapport à son épouse. Et puis Madame de Mailly a eu l'idée de faire venir une de ses sœurs, Mademoiselle de Nel, qui était pourtant pas jolie, qui était
d'une nature plus enflammée.
Très enflammée, vous avez tout à fait raison. Et arrivée à la cour, eh bien, elle a séduit le roi. Le roi l'a mariée au neveu de l'archevêque de Paris, monsieur de Vintimille. Il en a fait sa maîtresse et il a eu deux maîtresses à la fois. Madame de Vintimille, la seconde maîtresse, mais Madame de Mailly restait aussi sa maîtresse.
Elle était toujours là.
Elle était toujours là et elle aimait beaucoup sa sœur. Et Madame de Vintimille est tombée enceinte des œuvres du roi et elle est morte en accouchant. Le roi en a été très déprimé. Madame de Mailly est revenue en grâce, mais comme elle pleurait sa sœur et qu'elle n'arrivait pas à soutenir le roi complètement déprimé.
Mais ça faisait beaucoup de déprimés ensemble.
Ça faisait
ensemble.
Beaucoup de dépression. Et il y avait une troisième sœur qui était belle, magnifique, très altière. Et cette sœur-là, c'était Madame de la Tournelle. Elle était veuve, c'était une très jeune veuve, heureuse de l'être. Et elle avait d'ailleurs un amant qui était le duc d'Agenois. Louis XV en est tombé amoureux, mais comment faire?
Il avait là, Madame. Il est vraiment très amoureux. Et, là.
Oui, ouais. Mais alors il n'ose pas. Louis XV c'est un grand chasseur, mais ce n'est pas un chasseur de femmes. Il attend qu'on lui apporte les proies dans ses bras. Et c'est le duc de Richelieu, son ami, qui lui dit mais il faut absolument que vous partiez à la conquête. Vos ancêtres, eh bien, ont conquis des femmes. À vous de la conquérir. Alors Richelieu fait des pieds et des mains, organise des rencontres et finalement Madame de la Tournelle tombe dans les bras du roi, mais elle tombe dans les bras du roi, elle consent à se donner au roi. Elle n'aime pas le roi, elle aime toujours d'Agenois. Mais enfin, le temps passant, elle finit par aimer le roi et elle a une influence plutôt bénéfique sur lui. Elle le convainc de partir en campagne, car là nous entrons dans une autre guerre qui est la guerre de succession d'Autriche. Elle le convainc de partir à la guerre. Alors, elle est très insolente, elle fait renvoyer Madame de Mailly qui était toujours à la cour.
Sa propre sœur, donc.
Sa propre sœur. Et elle convainc le roi de partir diriger l'armée. Et c'est elle l'accompagne.
En 1944, à Metz.
Et à Metz, le roi tombe très gravement malade. On croit qu'il va mourir et le roi est forcé par l'évêque de renvoyer Madame de Mailly. Et lorsque le roi se rétablira, il voudra faire revenir Madame de Mailly auprès de lui. Et mais curieusement, Madame de Mailly, à ce moment-là, mourra. Le roi sera dans un état de dépression encore plus grand qu'avant. Et c'est là qu'on lui apportera Madame de Pompadour.
C'est ça. Il va y avoir une grande, grande effervescence chez ces dames pour essayer de conquérir le roi. Et finalement, c'est une femme extérieure à la cour et même extérieure à l'aristocratie.
Oui, qui finalement, c'est une bourgeoise. Et c'est véritablement là qu'on voit les classes montantes, puisque classe montante, la bourgeoisie arrive à la cour.
Finalement, la grande bourgeoisie financière parisienne va obtenir quasiment son entrée à la cour à travers Madame de Pompadour.
Oui. Qui ne s'appelle que Mademoiselle Poisson, Madame d'Éthiol.
Donc là, on est en 44-45.
Là, on est en 44-45.
Et j'allais dire, ce qui est étonnant, on aurait pu penser que c'était la fin de la jeunesse de Louis XV. Eh bien,
non,
vous allez jusqu'en 56, vous.
Moi, je vais jusqu'en 56 parce que c'est la moitié du siècle. Et c'est parce que c'est à ce moment-là que, justement, les philosophes pensent imposer leurs idées.
Et puis 56, c'est le basculement, le retournement des alliances, le changement politique total en Europe, le lancement dans une nouvelle guerre, cette guerre de 7 ans, qui va être désastreuse pour la France.
Et c'est à ce moment-là que véritablement, on entre dans une autre période.
Oui, c'est une
période. Je suis en train d'écrire la suite.
Ah, mais alors on attend ça avec beaucoup d'impatience. Après le temps des illusions, ce sera le temps de quoi?
Ce sont les illusions perdues.
Les illusions perdues, c'est ça. Evelyne Levert, le temps des illusions, chronique de la cour et de la ville. Donc ça va de la mort de Louis XIV en 1715 jusqu'à ce basculement, on peut dire, de l'Europe, jusqu'à ce tournant du règne même de Louis XV en 1756. Tout ça est publié chez Fayard. Merci beaucoup Evelyne Levert, non seulement d'être venue nous parler de tout ça, mais de continuer à faire vivre cette belle chronique de France, si je puis dire, qui enchante, j'espère, beaucoup d'adolescents comme elles ont enchanté la mienne. Bonjour Elena Mornin.
Bonjour Franck, bonjour à tous. Alors nous allons rester sur le chapitre des temps des illusions et des illusions perdues puisque nous allons parler d'amour.
Vous êtes toujours dans votre Love Week.
On est dans la Love Week, vous avez tout compris, c'était une semaine exprès pour vous Franck. Et justement, on parlait d'illusions, nous allons parler des bienfaits et des bobos de l'amour. Quels sont les baumes, quels sont les élixirs, on en parle avec les experts et puis on attend vos témoignages au 39-21, c'est 34 centimes la minute.
Merci beaucoup Elena, nous nous retrouvons demain.
Avec grand plaisir, à demain Franck sur Europe 1 où il est précisément 14h.